L'heure du LEM a sonné. L'émission quotidienne de Transistor revient tous les jours du lundi au vendredi et des partenaires reviennent aussi, comme aujourd'hui Eaux et Rivières de Bretagne, avec qui on parle éducation.
LEM, l'émission sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Magazine avec de vrais morceaux de Finistère dedans. Et aujourd'hui on reçoit Anouk Bonjean, vous la connaissez, elle est animatrice éducatrice nature de Eaux et Rivières. En fait elle a un peu changé de poste, mais elle a beaucoup fait d'éducation à la nature ou dans la nature. On l'avait reçue il y a quelques années à propos d'écoles dehors avec des enfants de la maternelle de Rosnoën qui mettaient leurs bottes, leurs cirés, leurs bonnets, leurs gants et tout et qui s'en allaient dans le verger d'à côté pour compter les branches ou apprendre à nommer les insectes. Et ce, par tous les temps. Récemment, j'ai vu un reportage sur des enfants très jeunes, hein, quasiment des bébés, bien emmitouflés, avec un bon gros sac de couchage en plus, et des adultes de la crèche qui les installaient sur la terrasse en plein hiver pour la sieste. On appelle ça la sieste nordique, car ça se passe dans les pays du nord de l'Europe, où les hivers sont rudes pourtant. Le friluftsliv, c'est un mot norvégien qui veut dire en quelque sorte activité en extérieur. Mais c'est bien plus que ça, c'est un état d'esprit qui privilégie la lenteur, l'observation, l'immersion dehors, en plein air, plutôt dans un lieu sauvage. Les Norvégiens enseignent donc le friluftsliv dès le plus jeune âge. Bonjour Anouk.
Bonjour Véronique.
Alors, pour commencer, je crois qu'on a besoin quand même de distinguer peut-être, ou peut-être pas, ce qui est l'éducation à la nature, dans la nature, à l'environnement, et l'éducation dehors. Il y a quand même des nuances en fait, des différences entre tout ça.
Oui. Bah, la principale différence, en fait, on va différencier l'école du dehors avec l'éducation à l'environnement, l'éducation à la nature. C'est thématique. En fait, dans l'école du dehors, on va vraiment apprendre toutes les compétences un peu... Enfin, c'est pas compétence d'ailleurs, mais
les
c'est
disciplines.
Les disciplines vraiment scolaires, voilà, les maths, le français, la géographie, enfin voilà, mais on fait ça dehors. Et puis par contre, l'éducation à l'environnement, elle n'est pas forcément faite dehors.
Mais oui, c'est ça.
Ouais, on peut la faire à l'intérieur. En fait, là, l'objectif, c'est vraiment de transmettre les connaissances qui sont liées aux écosystèmes, aux espèces, savoir lire le monde un peu qui nous entoure, les enjeux écologiques qui sont liés. Donc, on apprend aussi des fois les déchets, l'énergie, les économies d'eau, voilà. Et ça peut se faire dehors, dedans. Voilà.
Oui, avec plein d'outils, hein, c'est vrai.
C'est différentes modes, hein, en fait. Ouais, si on retrace l'éducation, l'histoire de l'éducation à l'environnement, on va retrouver ces différentes phases en fonction des modes, quoi.
Ouais. Et alors, l'éducation à la nature, ou dans la nature, ou par la nature, peut-être. C'est les trois, non? Ça serait quoi, alors?
Alors, l'éducation à la nature, on est vraiment dehors. Mais on observe quand même les écosystèmes, les espèces. On va quand même s'intéresser vraiment aux autres vivants, quoi. Tandis que l'école dehors, là, on s'intéresse aux français, aux maths, voilà.
Ouais. On essaye quand même de regarder un petit peu ce qui se passe, mais bon. C'est vrai que l'école dehors, c'est peut-être pas forcément aussi dans ça. Parce que j'imagine que l'éducation à la nature, telle que la pratique Eaux et Rivières et les associations naturalistes, il y a peut-être un problème avec ce mot de nature, hein, n'est-ce pas? C'est un problème ancien qui remonte à la philosophie. Mais c'est vrai que la nature, ça veut un peu rien dire. Enfin, est-ce qu'un carré de pelouse devant chez soi, c'est de la nature? Non, en fait.
Ouais, mais alors du coup, si on veut vraiment se prendre la tête sur les mots,
oui.
Faisons. Dehors, ça veut rien dire non plus.
Ah ouais.
Dedans,
bon,
dehors. Dedans, dehors, c'est une construction culturelle et c'est exactement la même chose que nature. Ça sous-entend que au dehors, c'est la nature, donc c'est pas nous, donc voilà.
Ouais. Alors qu'en fait, non. Enfin, le parking, il est dehors là, en l'occurrence. Hein. Devant la mairie du fou.
Non, mais à ce moment-là, si ça. Un débat, ça c'est quand même un débat vachement intéressant avec plein de notions philosophiques que je maîtrise pas vraiment. Enfin là, en tout cas, je me sentirais pas trop de raconter tout ça. Mais en tout cas, il y a un super article dans la revue Eaux et Rivières vraiment consacré au dehors. Le premier article était, c'est une interview de Kaolara. Oh là là, j'espère que j'écorche pas son nom, le pauvre. qui est un sociologue qui a beaucoup travaillé sur la notion de dedans, dehors. Et sinon, il y a tous les travaux de Philippe Descola sur la nature. Distinguer nature et l'homme, c'est complètement aberrant. Oui, c'est vraiment... ça n'a aucun sens de faire ça.
Oui, c'est ça, parce que, par exemple, est-ce que les animaux domestiques, c'est de la nature? Non, c'est juste des animaux, en fait. C'est complètement... c'est pas du tout de la nature. C'est complètement de la culture, puisque c'est nous qui les avons fabriqués de toutes pièces, finalement. On pourrait peut-être plutôt parler de sauvage. Enfin, j'imagine que quand Oué Rivière va dehors faire des ateliers sur la rivière, justement, on privilégie les endroits les plus sauvages possibles, les moins anthropisés, même si l'homme est partout.
Transformé. En fait, là, l'homme, il est partout. Et en fait, il y a vraiment des choses intéressantes absolument partout, et même en ville. Même dans un endroit très, très artificiel. De toute façon, quand même, tout est artificiel. Là.
Ça. Même une rivière, elle a souvent reméandrée. On a changé son cours. Donc,
Bien sûr. Ouais. Non, mais par contre, on part à la rencontre des autres vivants. Donc on découvre toute la div... parce que même sur un tout petit coin de pelouse en bas, là, on a une diversité incroyable de formes, de couleurs, de constructions, d'architecture, de plantes. Les arbres, si on prend le temps de bien les regarder, ont des architectures propres, ont des fonctionnements propres. Et ça peut juste se voir sans explication, mais juste en observant, en apprenant à bien regarder, on a tout ça. On a des odeurs, les odeurs sont capitales parce que c'est des moyens de communication pour... Donc nous, on a un nez qui est quand même très, très en deçà de...
Ah oui, il n'est pas si mauvais que ça, il paraît.
Il pourrait être vachement mieux.
C'est surtout qu'on l'éduque peut-être pas beaucoup aussi, c'est ça. Enfin, il n'y a pas à l'école, il n'y a pas la discipline odorat.
Non, c'est vrai. Mais on est naturellement fait pour percevoir... c'est un sens quand même qui nous aide et inconsciemment qui nous transmet des messages. Oui. Mais c'est vrai que tout ça dehors, on l'a et qu'on soit dans un environnement très anthropisé ou plus diversifié avec plus de vivants dedans, quoi.
Plus sauvage. Et alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant, on a commencé à le dire un peu, mais pourquoi est-ce que c'est intéressant de mettre les enfants ou même les plus grands dehors?
Mais en fait, il s'agit de répondre à un besoin naturel, quoi. C'est vraiment... Notre société, nos modes de vie ont évolué très, très, très rapidement et notre cerveau n'a pas suivi.
Mais oui, on est toujours fait pour pour vivre dehors. En fait.
Ouais, voilà, c'est notre environnement naturel, c'est comme ça qu'on est constitué. Donc en fait, pour les enfants, les besoins naturels, mais je vais les rappeler, c'est un peu basique, mais n'empêche qu'il faut quand même des fois remettre un peu les bases. Mais bon, bah, il faut bouger, quoi. Voilà.
Déjà.
Les enfants, ce sont des boules d'énergie. Et s'ils ne l'expulsent pas, enfin s'ils ne font pas sortir cette énergie, ça se transforme en violence. Et après, c'est retourné contre eux ou contre les autres, quoi. Et ils ont besoin aussi d'environnements sensoriels très riches. C'est comme ça, en fait, ils sont en train de se constituer une espèce de carte mentale du monde qui les entoure. Et eux, la carte mentale, ils la construisent avec leurs cinq sens. Alors je dis eux, mais nous aussi, hein. Parce que nous aussi, on continue d'évoluer. Bah, et voilà.
Notre cerveau ne s'arrête pas de changer.
C'est ça. Mais pour les enfants, comme c'est une étape de construction, c'est la base après pour avoir une assise solide après pour les événements de la vie.
Oui, c'est comme le langage. Si un enfant n'était exposé qu'à deux odeurs, mettons, dans son enfance, il serait complètement... ça serait une forme de handicap terrible, en fait.
Exactement ça.
Jour où il serait confronté à d'autres odeurs, peut-être, quoi. Enfin, ça serait... En tout cas, ça serait un choc.
Non, mais c'est vrai que même si on repart sur le langage, là, l'exemple que tu viens de prendre, imaginons que vous vouliez apprendre l'anglais ou même n'importe quelle autre langue, comment vous y prendriez comment vous feriez?
On irait dans un pays qui parle anglais, ça serait mieux.
Eh bien, l'immersion. ça, c'est évident, quoi.
Voilà. D'accord.
Donc, mettre les enfants dehors, c'est répondre vraiment à... Ça répond vraiment à un besoin et à tel point que... Donc en fait, là, y a des études assez précises qui montrent que les enfants ne sortent plus. En tout cas, si en dehors de l'école, avant le temps libre, c'était dehors, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Et donc, on a maintenant ce qu'on appelle le syndrome du manque de nature.
On revégétalise quand même les cours de récré. On va dire que c'est un point positif. De plus en plus de communes remettent des végétaux dans la cour, enlèvent un peu d'asphalte.
Oui. En fait... Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on y est un peu amené par la force des choses. Hein. Ce n'est pas du tout un luxe parce que, comme je vous disais, là, les changements de culture très importants, ça a modifié un peu les enfants avec lesquels on doit travailler, nous, professionnels de l'éducation. Nos professionnels de l'éducation, c'est les éducateurs, les animateurs, les enseignants, enfin tous ceux qui sont avec les enfants, même les assistantes maternelles, enfin tout le monde. Quoi. Et en fait, nous, on a des conditions de travail très différentes entre ce qu'on avait il y a 30 ans et maintenant. Quoi.
Ah oui.
Donc en fait, la revégétalisation des cours d'école, l'école dehors, tout ça, c'est aussi des conditions de travail. C'est l'inconfort en fait, qui nous force à bouger. Quoi. Et donc on était dans la sécurité, mais en fait on se rend compte que c'est...
Ça a aussi des impacts négatifs, la sécurité. Quoi. Enfin, ça a l'air bien comme ça, mais en fait, ça nous prive de beaucoup de choses.
Ouais, et puis surtout les enfants, parce que eux, il y a une culture du risque. En fait, ce qu'on oublie aussi dans les besoins essentiels des enfants, c'est qu'eux, ils se construisent par la prise de risque. En fait, on fait des allers-retours toujours quand on se construit, mais même nous, adultes, encore une fois, hein, nous, on n'est que des grands enfants, mais on maîtrise mieux les émotions. En fait, on a besoin d'aventure, de prendre des risques, et puis après, de sécurité et de retour à des figures un peu sécurisantes, voilà, quoi. Et donc, on a une sécurité émotionnelle et une sécurité physique. Et puis, on se construit en allant prendre des risques, en partant à l'aventure, en dépassant ses limites. Et puis, voilà.
Donc, des risques calculés, hein, c'est-à-dire que prendre une bonne averse, c'est quand même pas bien grave.
Ouais, mais c'est vrai que par exemple, si on prend le truc de monter dans un arbre ou d'aller faire du vélo, il y a une prise de risque. Et ça, nous, les adultes, on commence à vouloir s'en échapper. On veut plus prendre de risque.
On veut du zéro risque. Ouais.
Et ça veut dire que du coup, on se soustrait à notre travail d'éducateur. Parce qu'en fait, les enfants ont besoin de ça. Mais là, dans la société dans laquelle on est, plus personne ne veut assumer ce rôle-là. Ni les parents, ni les éducateurs, ni les enseignants. Et ça... Pour moi, c'est vraiment un gros problème, en fait, sociétal, je veux dire.
Mmh. Mmh. Et alors, les éducateurs à la nature, comme ceux de Haut-et-Rivière, comment est-ce qu'ils font pour... qu'est-ce qu'ils apportent aux profs ou à d'autres éducateurs ou même aux parents
En fait, nous, les éducateurs à l'environnement, on est dehors tout le temps, on revendique ça depuis des années, ça fait... Là, Haut-et-Rivière, en fait, ça fait 50 ans que les générations d'éducateurs se succèdent et prônent le dehors. Donc nous, on est habitués à encadrer des groupes dehors. Et puis, on a en face de nous, un professionnel des apprentissages académiques, du programme scolaire. Donc, on fait une bonne équipe, finalement. Quoi. Alors, nous,
vous complétez bien, c'est ça que...
Ouais. Donc nous, on aide les enseignants ou même les animateurs, hein, parce qu'on peut aussi amener...
Oui, c'est en centre aéré et tout ça, en centre de loisirs, bien sûr. Ouais.
Mmh. En fait, on les aide à sortir de leur zone de confort, parce que c'est quand même sortir de sa zone de confort. On assure la sécurité du groupe, en fait. Là, ce que je viens de dire sur la culture du risque, on l'accompagne dans la tête de l'enseignant, enfin de l'encadrant, qui doit parfois changer de posture, c'est pas évident. On est beaucoup moins sur un truc pyramidal, comme dans la salle de classe, où l'enseignant doit tout savoir, etc. Là, on est plus comme sur une structure plus horizontale. On est habitué à évaluer la sécurité d'un site, aussi.
Oui, vous pouvez voir, vous êtes suffisamment professionnel pour savoir que voilà, il n'y a pas vraiment de gros dangers sur tel endroit.
Ouais, ou même la destruction écologique du site parce qu'on est 30 à piétiner. Ouais. Enfin, on a ces lunettes-là, on peut facilement faire part à la personne référente. Et en fait, ce qu'on fait la plupart du temps, c'est vraiment traduire leur fiche séance classe en fiche séance extérieure.
Ah oui, voilà. Ils vous les envoient et puis vous transformez tout ça.
Ouais, voilà. Mais en fait, c'est très vite fait parce qu'on a tout le temps les mêmes points de repère. En fait, on va prendre l'espace qui est dehors et le retraduire comme espace classe. Donc, on définit un espace de récréation, un espace de... de temps qu'on appelle en autonomie. Il y a toujours ça dans les classes, il y a des coins autonomie.
Oui, c'est vrai, ça, c'est de plus en plus.
Il y a des coins travaux de groupe, donc là, c'est des coins où on va faire des explorations, et même d'un point de vue naturaliste, on va s'assurer que c'est des coins où il n'y a pas trop de casse, on ne peut pas faire trop de casse, quoi, par exemple. Mais on va inciter les enfants à aller chercher, fouiller, gratter, voilà. Il y a des coins regroupements, il y a un coin regroupement pour partager avec l'ensemble du groupe ses découvertes. Donc ça, on l'aménage, voilà, on décide ça tous ensemble. Et puis, en fait, le matériel qui est utilisé en classe, on peut facilement le trouver en extérieur. Donc du coup, ça c'est aussi notre rôle à nous, les animateurs nature, trouver... voilà.
Ah oui, par exemple ?
Bah, par exemple... quand en classe on utilise des perles de couleur, bon bah nous on peut dire bon bah on utilise des feuilles de couleur à la place pour faire des algorithmes. Enfin je dis n'importe quoi, mais voilà, on peut écrire dans la boue avec un bâton plutôt que sur une feuille avec un crayon.
Oui.
Puis après il y a un autre truc quand même qui est vachement important, parce que comme je disais, on sort de sa zone de confort, c'est qu'on va quand même rassurer beaucoup l'enseignant, parce que c'est pas toujours une réussite, parce que c'est pas... En fait, c'est quand même vachement moins bien que sur les écrans. Hein. On va pas se mentir.
Enfin, comment ça, moins bien? Moins bien, c'est-à-dire quoi
les... bah, c'est-à-dire que les écrans, c'est classe, quoi. Il y a des belles couleurs, des belles images, on voit le renard...
Ah, c'est moins spectaculaire.
Ah bah oui.
Ah oui, d'accord. Non, mais ça, je suis pas tout à fait d'accord, enfin... Oui, on verra pas le renard. Peut-être qu'on verra pas le renard si on va dehors, en vrai. Oui, c'est vrai.
C'est toujours moins bien, en fait. Et puis c'est inconfortable. Et puis les enfants, quand ils partent dans tous les sens. Puis voilà.
Oui, mais ça, c'est le point de vue de l'enseignant, plutôt, en fait.
Ah oui, oui.
C'est pas le point de vue des enfants. Les enfants, il n'y a rien de comparable pour eux. Enfin, aller dehors, c'est quand même, avec tous les âges d'ailleurs, c'est quand même beaucoup mieux que d'être assis sur leur chaise, non ?
Alors,
sauf certains, juste, c'est vrai, il y en a qui sont casaniers.
Non, mais il y a des études en fait qui ont été faites, alors, surtout en Angleterre, et qui évaluent très précisément les niveaux de motivation, les niveaux de concentration, la coopération, donc aussi l'ambiance dans le groupe, parce qu'il y a des ambiances classes qui sont terribles avec plein de conflits. Et il y a des études très précises sur le stress. Le stress. Ça va jouer beaucoup aussi sur le sommeil et l'appétit. Donc là, après, c'est des trucs qui se retrouvent à la maison. Tout ça montre d'excellents résultats pour...
Quand
on va dehors. Mais il y a quand même des enfants qui n'aiment pas la nature. Enfin, ce n'est pas parce qu'on est enfant qu'on aime la nature.
Non, non.
Et puis,
ils ont peur. C'est ça qui est terrible, c'est qu'il y a aussi des études qui ont montré que les enfants avaient tendance à avoir peur, en fait, de, bah, je sais pas, des insectes de plus en plus, hein, des insectes, d'autres choses.
Bah, ils sont le reflet de notre société.
Parce qu'ils connaissent pas, en fait.
Ouais, puis c'est vraiment eux. Eux, c'est des éponges et ils vont prendre tout ce qu'il y a autour. Et si notre société n'aime pas les insectes, ils aimeront pas les insectes. Enfin, c'est. C'est vraiment, eux, c'est le résultat de nous tous ensemble, en fait. Ils intègrent les codes de groupe. Donc, c'est logique, en fait, ouais.
Et donc, c'est meilleur pour le groupe aussi, d'aller dehors, d'aller dans la nature.
Ouais, en fait, c'est l'inconfort qui oblige à trouver rapidement des stratégies de coopération. Ça se voit vraiment très, très vite. Non, mais juste un truc tout bête, mais par exemple, il y a un talus à sauter. Bon. Les enfants qui ne vont pas être très à l'aise dans leur corps, ils vont être là à hésiter. Et très vite, on voit un enfant qui arrive et qui tend la main pour aider à descendre le talus. Ou par exemple, quand il y a un enfant qui glisse, qui tombe, bah très vite, on a un petit groupe autour pour venir. Voilà. Et ça, c'est des manifestations de soins très naturelles en fait, chez les enfants. Et tout aussi naturel que, enfin, comment dire, ben non, mais voilà, mais ça soude le groupe, quoi. Ou par exemple, quand il faut soulever un truc lourd, ils s'entraident, ils sont toujours, ouais. C'est quelque chose qu'on observe très, très vite, quoi. Dès les premières séances, on observe ça.
Est-ce qu'il y a eu des études ou des observations, en tout cas, sur la créativité des enfants qui sont en milieu extérieur? Est-ce que ça renforce leur créativité?
Ben, un des trucs naturels qui se fait avec les enfants, c'est le détournement d'objets, le détournement en fait, voilà. Donc, on, en ce sens-là qui peuvent détourner parce que c'est pas pré-mâché. En fait, il n'y a pas de jouet et tout ça. Bah, donc,
oui, il n'y a pas de bouton sur lequel appuyer. Quoi. Il faut trouver comment ça marche, comment ça fonctionne. Ça. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça?
Et au début, ils peuvent être un peu désarçonnés, les enfants, et perdus. Hein, et donc... dans l'inconfort, mais très vite, le naturel revient au galop. Quoi.
Et on a effleuré un peu le sujet, mais les parents, comment ils sont par rapport à ces propositions d'aller dehors, d'emmener leurs enfants dehors?
Bon, en fait, je vais vraiment parler pour moi, mais moi, de ce que je vois, c'est tout l'un ou tout l'autre. Soit ils sont complètement acquis à la cause, et alors là, les enfants, ils ont l'équipement, ils sont... et les enseignants sont vachement... comment dire, valoriser là-dedans, ils ont du monde pour les accompagner, les parents sont investis. Soit ils sont stressés par les apprentissages, en fait. Ils se demandent qu'est-ce que ça va bien pouvoir apporter, alors que quand même, il y a l'entrée au collège à préparer. Ils ont peur de la garderie, du côté garderie. Et puis, ils trouvent que c'est un peu puéril, en fait.
Ils trouvent que ça fait pas sérieux, c'est ça?
Ouais.
Ah, ouais.
Bon, dans tous les cas, donc il y a beaucoup d'informations à passer de toute façon dans tous les cas. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose dont il faut parler, c'est la saleté.
Ah mais oui, ils vont rentrer, ils vont être crado.
Ouais, c'est ça.
Et ça, c'est quand même
un sujet très intime.
Ben oui.
Donc il faut de toute façon en parler. Il faut expliquer que ben voilà, on est dehors, il y a un contact avec le milieu, il y a une enfin voilà.
Oui, ils seront sales. Oui, il y aura de la boue.
C'est ça.
Exactement. Mais les enfants n'en mourront pas.
Non. Après, il y a tout le truc sur les allergies, les tiques, il y a tout ça, hein. il faut en parler, il faut absolument aborder tous ces sujets, c'est très important. Les parents là, ils sont tous très impliqués dans l'éducation des enfants, plus ou moins en fonction de leur disponibilité mentale, mais je veux dire globalement, ils se sentent tous très intéressés par ce sujet-là, et donc il faut les mettre dedans dans la boucle, quoi.
Ouais. Et est-ce qu'on peut avoir des exemples alors de ce qui se fait à Ouerivière de Bretagne, d'intéressant justement en matière d'éducation dehors, à la nature? Exemples comme d'ateliers qui sont menés, très structurés. Ouais.
Ah oui, oh, bah, c'est très très riche parce qu'en fait, à chaque fois, on se base sur les enseignants. Donc, je vous ai parlé des différents espaces de la classe dehors. Hein, on reproduit vraiment la même chose pour que les rituels puissent être faits exactement de la même manière. Donc, on va partir sur une séance type qui pourrait être un rituel de début qui pourrait être une séance de lecture dehors. On pourrait partir sur un exercice avec une manipulation en groupe de construction d'algorithmes avec différents éléments de la nature. Donc ça, c'est une séance qui se fait
algorithme,
à partir du matériel.
Pour définir, on va dire, c'est quoi une série d'ordres, c'est ça?
Ouais, voilà,
ouais.
C'est ça.
Bon, okay.
En fait, on construit un bâton, une feuille, un caillou. C'est plus ou moins complexe, hein, on peut les complexifier. Et les enfants doivent le continuer, par exemple. Et ça, Des suites logiques, voilà. Mmh. Ça, c'est fait dès la maternelle, mais c'est continué après, jusqu'au CM2, parce que les algorithmes, ça permet de faire plein de trucs. En fait, j'y connais rien, mais...
mais c'est pas grave. On sait que c'est un mot tendance, donc c'est pas mal d'avoir une approche même naturaliste.
Non,
de
je sais que c'est dans les programmes, mais après...
Ah ouais, d'accord. On fait des algorithmes aux enfants, très bien.
Ouais. Non, mais si, mais il doit y avoir un truc plus... Bon, à comprendre après. Et après, il y a une récré. On fait toujours une récré avec des jeux libres, c'est très important.
Mmh.
Parce qu'on là, on observe bien les enfants et c'est là que les groupes sont plus... Enfin, se soudent en fait aussi.
Ouais.
Et ce que je veux dire, c'est que la récréation n'est pas qu'un exutoire, c'est important.
Oui, c'est aussi un moment éducatif, quoi. C'est pas juste le moment où les enfants hurlent.
Oui,
ou se battent.
Fait. Exactement.
Ouais, ouais.
Et après, la récré, on peut rester sur les maths et faire des codes d'équivalence avec des poses de combinaison. Donc, par exemple, deux feuilles égale un bâton et commencer à faire des espèces de... comment on appelle ça en maths, des...
Des ensembles, non?
Avec des équivalences. X égale,
nanana. Ah, des équations, voilà, des équations.
Des équations.
Après, les algorithmes, les équations en feuilles et en bâton. Très bien. Mais oui, non, on ne soupçonne pas tout ça. Oui.
Mais oui, voilà. Ouais. Et après, on fait une construction en Landart qui suit des règles de mathématiques avec le cercle, le carré. Enfin, voilà, ce genre de choses, quoi. On peut faire les fractions, on peut faire... Et la même chose avec le français, puisqu'en expression, on peut faire tout un tas de choses. On peut faire sur les lettres et les formes, on peut faire plein de choses. Enfin, voilà, on...
Donc toutes les matières, si on parle d'école stricto sensu, toutes les matières quasiment peuvent être abordées dehors, enfin dans un espace de nature, que ça soit l'aire terrestre éducative, l'aire marine éducative, et quand c'est en centre de loisirs, bon bah c'est encore plus libre pour le coup quoi. Enfin
ouais, bien ouais. Sûr. Après voilà, le truc c'est qu'on a tout découpé en matières. Ouais. Mais ça n'a pas tellement de sens dans l'école dehors, donc il faut vraiment rester sur l'idée que c'est interdisciplinaire. Et que en faisant une chose, en fait, on traite plusieurs angles. Voilà.
Et alors, la toute dernière question pour laquelle on a 30 secondes. Dans le Finistère, ça progresse quand même, ce mode d'éducation à la nature ?
Alors, il n'y a pas d'études. Je ne peux pas m'appuyer sur une étude scientifique, vraiment, des chiffres et tout ça, je n'en ai pas trouvé. Mais bon, en fait, nous, à Ouai-Rivière, on accompagne les enseignants depuis 2018. Et en fait, c'est vraiment depuis le confinement qu'il y a eu un réel engagement, un réel besoin de changer les conditions de travail, en fait. Ça ne s'est jamais arrêté. Et c'est vrai que l'éducation nationale est très motrice. Elle propose des formations, les conseillers PEDA sont bien informés, ils font le relais. Donc je dirais que c'est vraiment en progression. Et que... Après, je pense qu'il y a aussi des enseignants qui commencent et qui s'arrêtent.
Hein. Ah oui. Malheureusement, ils ne sont pas conquis.
C'est quand même un sacré investissement, ouais. C'est un bon chamboulement dans les habitudes. Et selon les années et la classe qu'on a, on peut se sentir plus ou moins OK pour aller dehors. Quoi. Bon, la météo aussi, hein, ça, franchement, là, un
sale hiver comme on a eu,
ça peut décourager, ouais. Je le comprends. Bah, parce ouais, que franchement, même moi qui suis quand même convaincue...
Bon, allez, on va quand même s'arrêter sur cette note positive. Merci beaucoup, Anouk.
Merci.
C'est la fin de cette émission. On pourra la réécouter, bien sûr, sur le site de la radio. Et on va retrouver avec plaisir Ouai-Rivière de Bretagne dans le LEM le 18 juin. Et ça va coasser. Je n'en dis pas plus. Au revoir.
Au revoir.